Bonjour. Mon cyberchronotron à démodélateur d'Audimat me permet de savoir en direct qui vous êtes à la virgule près. Par exemple, aujourd'hui, lundi 12 février 1996, 24% d'entre vous sont là parce qu'ils attendent le début de l'émission de Jérôme Bonaldi. 19% étaient déjà là, il y a une demi-heure quand Canal Plus émettait encrypté. 51% viennent spécialement pour moi et je les en remercie. Ils peuvent se mettre juste devant le téléviseur aux meilleures places. Attendez, je vois que 7,3% d'entre vous ont leur anniversaire qui tombe ce mois-ci. Alors, je les embrasse tout particulièrement et je leur dédie ce cyberflash. Aujourd'hui, une émission qui sait tout et qui vous dit tout sur Terminator, Future Shock, un jeu d'action. Le marché des CD-ROM, c'est TIC et c'est tendance. Et une petite oldies pour finir, Karateka. Choc!
Le retour de Terminator. Après le numéro 1 puis le numéro 2 du jeu d'action tiré du film de James Cameron, Bethesda rompit avec Terminator Future Shock. Cette suite de la suite de la suite surpasse sans mal ses prédécesseurs. Captivant au point qu'on en oublie la faiblesse des graphismes, le jeu vous transportera dans un futur violent et sombre. Les robots tentent par tous les moyens d'éliminer de la planète toute trace de vie humaine. Par une alchimie complexe, vous vous trouverez progressivement happé par la qualité de la simulation et plongé dans un univers où l'espoir n'a pas sa place. Même si son principe le rattache à des jeux comme Doom ou Dark Forces, Terminator 3 s'en différencie fortement par son réalisme et son ambiance. On peut ainsi, d'un simple mouvement de souris, tourner la tête, la lever ou la baisser. Et cela n'a rien d'un gadget car la survie est dans l'observation. Pour s'en rendre compte, il suffit de monter en haut d'un immeuble et de regarder en bas. Si vous avez le vertige, n'en soyez pas surpris. Très réaliste, n'est-ce pas? Reste le scénario qui, au fil de missions de difficultés croissantes, vous demandera de retrouver des personnes, des codes, de dynamiter des bases ou encore de tester le tout dernier hélicoptère de combat. En plus de votre courage et vos réflexes, vous disposerez d'une panoplie d'armes, pistolets mitrailleurs légers, lance-grenades, lasers, cocktails Molotov. Pour certaines missions, des véhicules roulants ou volants sont à votre disposition. Certes, graphiquement, le jeu est loin d'égaler d'autres productions du même genre. Mais pour l'ambiance et le réalisme, on vous l'a dit, il est excellent. Bien sûr, selon la mauvaise manie des éditeurs, ce jeu a été conçu pour être utilisé sur un Pentium. En dessous, ça rame.
CD, mon beau CD, dis-moi si j'étais la plus belle à Cannes. Eh oui, les milliards, c'est fini. Comme chaque année, cela aurait été l'occasion de faire le point sur le marché de l'édition électronique et notamment celui du CD-ROM.
1995 a vraiment été l'année du décollage du CD-ROM en France. Près d'1,5 million d'exemplaires ont été vendus, soit 2,5 fois de plus qu'en 1994. La plupart des machines intègrent aujourd'hui des lecteurs de plus en plus rapides. Quant aux éditeurs, ils ont multiplié l'offre en proposant plus de 3000 titres sur le marché du CD-ROM cette année. Et tout ça en améliorant considérablement la qualité de leurs produits. Les interfaces sont de plus en plus créatives et conviviales, l'image 3D enrichit les environnements graphiques, la vidéo accroît constamment sa qualité, et pour couronner le tout, on voit arriver les créations musicales originales pour CD-ROM. D'ailleurs, les éditeurs de musique s'intéressent de plus en plus au CD-ROM, par le biais du CD+, mais aussi avec des produits plus riches et même des jeux. Voici donc que le marché du CD-ROM arrive à l'âge adulte, et certaines tendances se confirment. En effet, c'est toujours le jeu qui domine, avec près de 60% des ventes. Mais le CD-ROM s'impose aussi comme support d'accès à l'art et la culture, puisque plus de 20% des CD vendus appartiennent à cette catégorie. Sans compter un marché difficile à mesurer, celui des titres érotiques. Autre tendance, les enfants deviennent une cible privilégiée pour les éditeurs et le ludo-éducatif atteint déjà 16% des ventes, un chiffre en constante progression. Il aura donc fallu moins de 3 ans au marché du CD-ROM pour décoller vraiment, et ceci sans compter la multiplication des CD-ROM gratuits qui accompagnent de nombreux magazines. Car un CD-ROM, ça ne coûte presque rien à fabriquer physiquement, à peine quelques francs. Mais alors pourquoi dans ce climat euphorique, certains le voient-ils déjà disparaître au profit du développement rapide des réseaux ? Soyons sérieux, le CD-ROM a de solides arguments pour lui. D'abord, une base d'utilisateurs de plus en plus large. 45% des personnes équipées d'un micro disposent d'un lecteur de CD-ROM, contre 9% seulement ayant un accès sur les réseaux. Et cet avantage n'est pas prêt de s'inverser. En plus, dans les mois qui viennent, la capacité des CD-ROM sera multipliée par 30 ou 40, pour atteindre près de 20 gigaoctets. Le CD-ROM s'avère aussi particulièrement adapté aux utilisations nomades, caractéristiques de nos modes de vie à venir. Enfin, il s'adapte au réseau. Le CD online permet de se brancher sur des services en ligne pour actualiser les informations contenues dans le CD-ROM ou pour effectuer des transactions. Avec tout ça, le CD-ROM a plutôt une bonne espérance de vie.
Bientôt des CD encore plus gros que ceux d'aujourd'hui. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, on se contentait de jeux qui tenaient sur des disquettes de 140 kilooctets. Regardez. C'était à une époque où les consoles de première génération étaient mortes, et celles de Sega ou Nintendo encore inconnues en Occident. Sur les Apple II, les composants permettaient des prouesses graphiques insoupçonnées. Avec une ou deux couleurs, on retournait aux sources du karaté, un sport de dépouillement et de concentration. Alors, prêt pour le Bonaldi Show ? Avant de me dématérialiser, j'éteins mon cyberchronotron à démodulateur d'Olimat. Et je vous invite à me retrouver sur le web de Canal+. Bon jeu, bon surf et bonne soirée. Arrivederci.